durer, ils n'en ont pas la moindre idée. J'en ai perdu les années, mais j'ai conservé ma fierté. Au pays des droits de l'homme, il n'y a pas d'égalité. Difficile à évoluer.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Joy au pays des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. À Strasbourg se trouve également l'un des barreaux les plus actifs dans le domaine de la formation continue des avocats, l'école du barreau du Grand Est, l'ERAJ. Aujourd'hui, je reçois le rabbin Mendel Samama.
Bonjour.
Bonjour Mendel. Vous êtes rabbin consistorial, vous officiez à la synagogue de la Mena et vous travaillez également dans le service de la certification de la cacheroute.
Tout à fait.
Ce que les gens savent peut-être moins, c'est que vous représentez les Juifs de France auprès du Conseil de l'Europe basé à Strasbourg.
Alors, pas seulement de France, d'Europe.
D'Europe.
Alors, Conseil de l'Europe, 46 pays maintenant.
Pouvez-vous nous présenter vos diverses fonctions ?
Si vous voulez, on peut rester focalisé sur la question européenne. Alors, la question européenne est arrivée dans mon agenda bien avant mon arrivée au consistoire. Si ma mémoire est bonne, ça remonte à 23 ans en arrière. Par hasard, par l'entremise d'un ami, j'ai rencontré une personne qui souhaitait me parler concernant la question de l'enseignement de l'histoire des religions dans les pays, les États membres du Conseil de l'Europe. Et à l'issue de notre discussion, nous avons convenu qu'il fallait un petit peu modifier l'intitulé pour l'appeler l'enseignement du fait religieux. Mmh. Et c'était sous la houlette du premier commissaire aux droits de l'homme, l'Espagnol Alvaro Gil Robles, pour qui j'ai une affection et une estime très grande. Donc c'est à ce moment-là que, on va dire, j'ai démarré à m'occuper un petit peu du Conseil de l'Europe, et petit à petit, ça a glissé vers le Parlement, vers la Cour européenne, etc.
Ok. Pouvez-vous nous expliquer peut-être pour nos auditeurs la différence entre le Parlement européen et le Conseil de l'Europe ?
Alors, c'est vrai que ça fait partie des erreurs que font non seulement le grand public, mais également les journalistes, bien souvent. Ils ne comprennent pas la distinction entre le Conseil de l'Europe, le Conseil européen, Parlement européen, bref, c'est vrai que l'Europe a énormément d'institutions, mais on va dire grosso modo, l'Europe et l'Union européenne, c'est une chose, avec son Conseil européen, c'est une chose, et on entend aujourd'hui beaucoup dans les médias et dans l'actualité la question, par exemple, la crise énergétique qui est gérée par la Commission européenne. Donc ça, c'est un dossier, c'est une institution. Le Conseil de l'Europe, c'est un petit peu l'ONU de l'Europe. Donc, c'est plutôt la maison des droits de l'homme, de l'état de droit et de la démocratie. Donc, c'est vraiment sa mission. Et ça concerne l'Europe élargie, donc la grande Europe, qui inclut des pays qu'on n'imagine pas, comme la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, la Russie, jusqu'avant le conflit avec l'Ukraine. Donc, c'est une très grande Europe. Et c'est cette très grande Europe, en réalité, qui a adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme.
Voilà, exactement. Et ça, c'est le contenu de cette émission. On va se focaliser uniquement sur le Conseil de l'Europe et l'effet que ça peut avoir sur le droit français et sur les droits des concitoyens. Donc, j'ai envie de vous demander, de quelle façon y a-t-il des synergies ou, au contraire, des différences entre vos deux postes de responsabilité ?
D'abord, moi, je pense qu'il n'y a aucune contradiction ou différence entre les postes de responsabilité. Pour moi, je me considère comme une personne qui défend la pratique et les valeurs juives. Donc, ça prend une certaine forme dans ma synagogue. Ça prend une certaine forme quand je vais pour développer des produits cachers dans des usines. Et ça prend une forme différente quand je rentre au Conseil de l'Europe ou au Parlement ou à la Cour. Pour moi, c'est la même chose. C'est juste, on va dire, la cravate qui change.
Okay.
La casquette.
Ou la casquette, effectivement. Alors, votre père est un émissaire du Rabbi de Lubavitch à Strasbourg. Est-ce que votre éducation joue ou a joué un rôle dans votre façon de travailler ?
Ah oui, tout à fait. Je suis non seulement inspiré par l'enseignement du Rabbi, mais je suis, j'ose dire, imprégné de cette vocation d'aller vers son prochain, de défendre des valeurs juives sans complexe, de faire la promotion de ces pratiques et de ces valeurs au-delà même des murs de la communauté ou de la grande communauté. Voilà, c'est, Je pense qu'aujourd'hui, la communauté juive et les juifs et les rabbins et chaque individu a un rôle essentiel à jouer dans le sens où il a surtout la mission d'être d'éclairer. On vit quand même dans un monde où il y a beaucoup d'obscurité, dans le sens où les valeurs se perdent. Alors évidemment, il y a toujours la promotion d'autres valeurs sous forme de progrès, etc. On peut appeler ça comme on veut. À la fin du compte, je pense que d'abord l'Europe, c'est, on va revenir sur l'Europe, mais l'Europe, c'est un continent qui a été construit sur certaines valeurs. Même l'Europe d'après-guerre, c'était une Europe comme on appelle l'Europe du Never Again. Et on se rend compte parfois que le Never Again, il s'éloigne de plus en plus de sa mission. Donc, notre mission, quelque part, c'est de rappeler aussi à ces dirigeants européens que l'Europe s'est construite pas sur rien, mais sur les cendres de 6 millions de Juifs. Je veux dire, cette promesse, c'est pas une promesse vaine, c'est une promesse qui a un contenu. Et pour moi, le contenu, c'est pas uniquement celui de dire qu'on n'enverra plus les Juifs dans des chambres à gaz. C'est pour moi, le contenu, c'est de dire qu'on ne créera plus les conditions qui permettrait de cliver les populations. C'est ça, pour moi, la promesse de l'Europe. Donc, quand parfois on a des décisions qui peuvent venir de certains organes européens qui vont à l'encontre de cette promesse parce que ça stigmatise certaines pratiques et que ça voudrait interdire certaines choses, des choses ancestrales qui d'ailleurs font partie de l'histoire en vérité des Juifs et d'autres communautés qui existent en Europe depuis des plusieurs centaines d'années, je dis attention, on est en train de revenir en arrière.
Justement, à ce propos, l'ancien grand rabbin d'Angleterre, Lord Rabbi Jonathan Sacks, avait expliqué que même l'antisémitisme puise désormais sa légitimité dans la doctrine des droits de l'homme. Est-ce que vous en avez été témoin de cette dérive ?
Alors, je suis un grand fan de Jonathan Sacks. Je lis beaucoup ses commentaires, ses livres, et il m'inspire beaucoup. Je pense qu'il a une analyse, il avait une analyse de la société très aiguë, d'abord parce qu'il avait un bagage qui dépassait juste le bagage rabbinique. Hein. Ses connaissances en science, en philosophie, etc. sont énormes. Et je pense que sur un certain point, il a parfaitement raison. Je pense que parfois, mais un petit peu, c'est ce que l'ensemble des organisations juives peuvent dénoncer parfois, c'est cette idée de mascarade sous sa forme de volonté de paix, de liberté, de certaines valeurs. Eh bien, on ne défend pas ce qu'on doit défendre. On le voit même dans l'actualité, par exemple, dans la façon comment est-ce que certains partis politiques renoncent à défendre les femmes iraniennes. J'ai utilisé un mot fort en disant renonce, parce qu'en fait, ils ne renoncent pas, eux. Ils prétendent que, voilà, on défend des valeurs de liberté. Mais justement, dans la liberté, il y a quoi ? C'est quoi ? Je veux dire, quelque chose qui est symbole de non-liberté, on ne va pas le défendre au nom de la liberté. Donc, c'est un petit peu ça, que parfois, au nom des droits de l'homme et au nom de certaines valeurs, eh bien, on en arrive à aller contre.
Alors, je voulais parler, si vous voulez bien, d'une résolution du Conseil de l'Europe qui a été adoptée en 2015, qui s'appelait « Freedom of Religion and Living Together in a Democratic Society », donc relatif à la liberté religieuse et le vivre ensemble dans une société démocratique.
Je crois que c'est suite au rapport de M. Housenov.
Exactement, le délégué d'Azerbaïdjan.
Raphaël Housenov, bien sûr.
Exactement. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agissait dans cette résolution ?
Alors en fait, je ne savais pas que j'allais t'interroger sur cette question. Ouais. Ma mémoire, elle fonctionne encore un peu. Ce rapport, en réalité, qui a produit des résolutions, c'est un rapport qui est venu répondre à un autre rapport de 2013 qui a assimilé la circoncision à l'excision génitale féminine. Le rapport, si ma mémoire est bonne, de Madame Ruprecht, une Allemande qui avait échoué au Bundestag pour faire interdire la circoncision, suite d'ailleurs aux efforts de Madame Merkel. Elle s'est dit, si je n'ai pas réussi dans mon pays, je vais essayer au Conseil de l'Europe. Donc, elle a lancé ce rapport qui a fait un scandale. Malheureusement, c'était une époque où j'ai baissé un petit peu mon activité européenne suite à mon entrée au consistoire. Et voilà, on a manqué un peu de vigilance, on a manqué de clairvoyance. De ce fait, ce rapport a été adopté je ne me rappelle plus exactement, mais à une majorité faible, en fait. Il y avait très peu de membres des délégations dans l'hémicycle, mais c'est ce qui a permis, je crois que c'était un jeudi après-midi, que le rapport est passé. C'est en général ce qu'on veut faire quand on veut faire passer des rapports en catimini. On essaie de faire en sorte de ne pas trop provoquer de débats et de le faire quand il y a moins de membres dans l'hémicycle. Donc c'était un petit peu un séisme parce que on s'est dit tiens si les résolutions de ce rapport sont validées ensuite et sont adoptées par le comité des ministres, ça pourrait se traduire par une interdiction de la Brit Mila, donc de la circoncision. Grâce à Dieu, je dois dire qu'on a réussi à renverser la vapeur assez rapidement, puisque quelques mois après, le secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui était M. Hagland à l'époque, est venu à Berlin lors de la conférence, le séminaire de la conférence des rabbins européens, et il a fait la promesse comme quoi il était garant que les pratiques juives seront toujours respectées en Europe. Ça a d'ailleurs provoqué un tollé, parce que voilà, le secrétaire général n'a pas forcément... pour mission de s'opposer à l'Assemblée parlementaire. Mais voilà, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait faire. On a eu la chance que derrière, le comité des ministres n'a pas validé ses conclusions, les conclusions du rapport de 2013. Et donc, suite à ça, il y a une certaine volonté de faire un autre rapport pour rééquilibrer en réalité le voilà, comment dirais-je, mais ça a créé un malaise. Voilà, donc il fallait un petit peu réparer ce malaise. Et M. Housseinov, qui est un professeur également d'université, a accepté d'être le rapporteur sur ce rapport que je trouve bien, équilibré, etc. On a beaucoup travaillé pour que ce soit quelque chose de... qui puisse redonner ces lettres de noblesse, je dirais, à l'institution du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée parlementaire, qui était quand même assez abîmée suite à ce rapport, au rapport de 2013, j'entends.
D'accord.
Donc voilà, c'est un petit peu la genèse de cela, et c'est ce qui explique pourquoi est-ce qu'en 2015, on a eu cette décision, en fait, ces recommandations.
D'accord. Alors, ce qui m'a interpellée dans l'introduction au rapport, justement, c'était les mots suivants. Donc, le Comité pour la culture et la science a affirmé que les États devaient chercher des accommodations raisonnables vis-à-vis de certaines pratiques religieuses qu'ils avaient qualifiées de controversées. Mmh. Donc, ça, c'est une autre question. Et que le but était de garantir une égalité effective dans le droit à la liberté religieuse et d'éviter les limitations à ce droit qui ne seraient pas nécessaires dans une société démocratique. Mmh. Alors, je voulais vous demander, pensez-vous que le but de la résolution a été atteint? Et si oui, dans quelle mesure?
Alors, est-ce que ça a été atteint? Je pense que oui. Pourquoi est-ce que ça a été formulé comme ça? On va dire, on est quand même dans un organe, le Conseil de l'Europe et l'Assemblée parlementaire, qui est quand même qui a un langage assez diplomatique, donc... Il ne s'agissait pas de dire que voilà, le rapport de 2013, c'était quelque chose à mettre à la poubelle de but en blanc, bon, même si j'en pensais pas moins. Mais c'est, voilà, il fallait un petit peu raccommoder et arrondir les angles pour que tout le monde soit un peu content. Il s'avère qu'aujourd'hui, en réalité, c'est peut-être ce qui va vous intéresser, c'est qu'aujourd'hui, nous avons l'interdiction de la Belgique, enfin deux régions de Belgique qui ont interdit non pas la circoncision, mais l'abattage rituel, on a eu en 2018, malgré ce rapport, on a eu l'Islande qui allait interdire la circoncision. Et si ce n'est les efforts que nous avons menés au Conseil de l'Europe, essentiellement, et notamment par son secrétaire général, qui était encore une fois M. Hagland, et qui a réussi à sauver la situation in extremis, je me rappelle encore, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est d'une façon, je dirais, presque miraculeuse, qu'on a réussi à sauver la situation en Islande, qu'on se rend compte qu'en réalité, malgré ce rapport de 2015, on se retrouve quand même dans des situations qui sont très problématiques. La menace de l'Islande qu'on a réussi à éviter, l'interdiction quand même effective aujourd'hui en Belgique, dans deux régions de Belgique, qui nous a contraints à déposer une requête à la Cour européenne des droits de l'homme, donc qui est aujourd'hui sur le bureau de la Cour européenne. Donc voilà, est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Je pourrais dire ça dans 20 ans.
C'est en cours. Effectivement, nous avons entendu lors des débats présidentiels en France que si le Front National passait, ils interdiraient l'abattage rituel. Est-ce que vous pensez qu'à l'état actuel du droit européen, ce serait possible?
Déjà, la Belgique a réussi à le faire. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait empêcher un homme politique mal informé de considérer que l'abattage rituel était moins protecteur des animaux que ce qu'on appelle aujourd'hui l'étourdissement, mais qui en réalité c'est la double peine pour les animaux. Donc je vois pas qu'est-ce qui pourrait idéologiquement empêcher n'importe quel parti politique de penser que nous avons des pratiques qui correspondent pas au respect des animaux. Bon, aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve le contraire. Donc, il n'y a rien qui prouve que la méthode que nous faisons, nous, la communauté juive, avec les shochatim, etc., il n'y a rien qui prouve que c'est moins respectueux des animaux. On espère, alors on verra bien ce qui va se passer à la Cour européenne des droits de l'homme, mais en tout cas, si demain, il y a la Cour européenne se prononce en faveur de la poursuite de l'abattage rituel, je pense que le débat descendra de l'estrade, enfin si c'est une estrade, des débats politiques.
Il avait mentionné des pratiques religieuses controversées. Donc vous avez mentionné la circoncision, l'abattage rituel. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques religieuses que vous pensez tombent dans cette catégorie-là?
Alors ça, on n'en sait rien. C'est-à-dire que le législateur, il a une imagination grandissante et que demain, on pourrait très bien, je ne vais pas leur donner des idées, mais voilà, ils pourraient très bien prendre un autre champ qui pourrait être l'éducation, par exemple, qui pourrait être... J'en sais rien. Ça veut dire que, franchement, on est dans une société où on se rend compte qu'on peut stigmatiser celui qui tient la pince d'un barbecue, qu'on peut considérer que tel ou tel mode de consommation, ça correspond à telle et telle catégorie de personnes. Aujourd'hui, on est dans une société où on n'arrête pas de mettre des étiquettes sur tout. Et enfin, franchement, on est rentré dans un ridicule, mais c'est foudroyant. Et on est là à se dire, mais qu'est-ce qui va se passer demain? C'est-à-dire, qu'est-ce que le politique va inventer demain pour dire, mais ce que vous faites là n'est pas normal par rapport à ci et à ça? Donc, on n'est jamais à l'abri de rien. Et c'est pour ça que je pense que la mission ma mission en tout cas, c'est d'informer, c'est d'expliquer notre philosophie de base, c'est de partager des moments de vie avec des personnes qui peuvent prendre des décisions, qui puissent comprendre comment est-ce que nous, en tant que juifs, on évolue dans une société, on évolue, je dirais, non pas uniquement de façon pacifique, mais on évolue de façon contributive. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Et les gens, c'est important d'inscrire cela dans la philosophie de notre action. J'ajoute qu'en juin dernier a été voté au Conseil de l'Europe, à l'Assemblée parlementaire, encore un rapport sur la lutte contre l'antisémitisme par Madame Petra Bahir. Et il s'est avéré qu'il y a dans ce rapport quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque pour une fois, peut-être pour la première, est inscrit l'idée de la promotion des pratiques juives comme étant un élément de lutte contre l'antisémitisme. C'est-à-dire que l'Europe aujourd'hui vient à considérer que c'est important pour nous, la communauté juive, de partager ce que nous faisons avec les autres pour qu'ils puissent mieux nous connaître. Alors, ça veut dire qu'on doit être encore plus ouvert, c'est-à-dire que portant ces conclusions, on a notre devoir de dire, voilà, on n'est pas là uniquement pour lutter contre quelque chose, mais on doit lutter pour quelque chose. Et voilà, c'est pour moi le sens de ce que je fais. Et si en décembre, on va faire Hanouka au Parlement européen, c'est dans cet esprit. Parce qu'on ne peut pas concevoir Hanouka sans le partager avec les autres. Et de mon point de vue, on est très en retard là-dessus. C'est-à-dire que vous m'avez parlé de ma culture Lubavitch, mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, cette idée-là de partager avec les autres certaines choses, ça a été essentiellement porté par des Lubavitch. De la même façon que quand on regarde, par exemple, les organisations juives européennes, à vocation européenne, etc., ce qu'on va appeler les lobbyistes, hein, même si ce n'est pas forcément le terme, mais les lobbyistes ne sont pas souvent des gens qui sont, je dirais, en cohérence avec ce qu'ils défendent. Je me souviens un jour, je parlais de l'abattage rituel avec un député au Parlement européen, et il m'a dit « Ah oui, j'ai parlé avec telle et telle personne ». Et après, on a été déjeuner. Mais bon, lui, il ne mange pas cachère. Alors, moi, je ne porte aucun jugement sur personne. Chacun choisit de manger ou pas cachère. Mais c'est difficile, je dirais, pour avoir une cohérence de combat. C'est difficile de convaincre un député européen que c'est important pour nous de manger cachère et de continuer à pratiquer l'abattage rituel quand, après, on va déjeuner dans un restaurant pas cachère. Donc, voilà, c'est un petit peu cette difficulté. On a toujours l'impression que si on est là et qu'on est avec la kippa, etc., alors ça pose un problème parce qu'ils vont nous regarder différemment. Mais en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est difficile de défendre une pratique et un mode de vie juif dans des institutions si on n'est même pas capable de porter une kippa parce qu'on se dit « Ah, non, c'est embêtant, on est dans un milieu qui est non-juif ». Donc voilà, c'est un peu... Alors, encore une fois, je ne porte aucun jugement et je pense que tous ceux qui se battent et qui défendent, ils doivent continuer à le faire et c'est important qu'ils le fassent. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont disqualifiés, loin de là. Mais on est dans une époque où la cohérence est de plus en plus importante. Et voilà, donc je suis content de m'investir dans cette mission.
Mendel, bonjour, je me permets d'intervenir sur ce volet qui n'est pas donc en réaction à l'antisémitisme. On sait que la plupart du temps, les organisations juives sont en réaction à des événements qui se propagent depuis la société globale. Et là, tout d'un coup, vous ouvrez un autre volet, une nouvelle perspective. Je sais qu'il y a de la coordination pour justement traiter des dossiers comme l'interdiction de la shrita qui pourrait intervenir, l'abattage rituel. Qu'est-ce qui, au sein de la communauté rabbinique européenne, permettrait d'avancer sur des volets, sur cette dimension-là d'ouverture, de promotion de la tolérance? Emmanuel Levinas disait que le rapport aux juifs, des sociétés aux juifs, était la mesure de la tolérance et de l'avancement moral d'une société. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire en Europe, du point de vue rabbinique, pour nourrir et alimenter c'est un rapport beaucoup plus sain et beaucoup plus positif aux juifs?
Mon avis, c'est qu'on est devant une autoroute et qu'il faut l'emprunter. Voilà. Évidemment, on aura toujours on a toujours des a priori d'abord sur les hommes et les femmes politiques. On se dit toujours « Ah, mais Louis, je ne peux pas le rencontrer parce qu'il a dit ça, etc. » Moi, je dis d'abord, je pars d'un principe que tant que je n'ai pas rencontré quelqu'un, je ne me fais pas d'avis. Voilà. Parce que quand je rencontre quelqu'un, c'est à ce moment-là où j'ai le temps de confronter mes arguments avec les siens. Et il ne faut pas croire, mais je dirais, des personnes qui font de la politique, ce n'est pas forcément des experts dans tous les domaines. Et encore moins des experts dans une religion qu'ils connaissent mal ou très peu, et sur lesquelles on a bien souvent mal communiqué. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on parle des Juifs pour deux raisons. Soit en parlant d'Israël, soit en parlant des actes antisémites. Donc, si je résume, soit parce qu'on est des bourreaux pour eux, soit parce qu'on est des victimes. Et en réalité, on a déshumanisé le juif. C'est-à-dire que nous, en tant que personnes juives, ayant une tradition, ayant une histoire, faisant partie d'une société qui construit la civilisation et qui aide son entourage, etc., parce que c'est ce qui se passe, c'est ça la réalité de la communauté juive, c'est qu'on est sensible aux voisins, juifs et non-juifs. Donc cet aspect, je dirais, de l'être humain, de l'humanité, est complètement dépecé pour une raison simple, c'est qu'on parle de nous soit en victime, soit en bourreau. Donc à quel moment on existe, nous, en tant qu'être humain? Voilà. Et c'est ça ce que j'essaye de défendre, c'est de dire, nous, on a une contribution à apporter à la société qui n'est pas dans la lutte contre, mais dans la lutte positive. C'est-à-dire, on doit faire évoluer notre entourage. Et je pense qu'au niveau européen, comme au niveau d'ailleurs local qu'au niveau national et au niveau individuel, chaque personne peut contribuer à cela. Et moi, c'est l'idée que je défends. C'est-à-dire que j'ai un voisin, j'ai une personne que je connais, mais partageons avec elle. Arrêtons de baisser la tête et de dire à peine bonjour, au revoir. On sort de la fête de Soukhot, expliquez ce que c'est une souka. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de s'entendre avec tous ses voisins, mais ils peuvent comprendre eux aussi, même si on ne s'entend pas avec eux, c'est quoi. Et je crois que c'est cette ouverture que nous devons absolument promouvoir pour les décennies à venir, parce que d'abord, il faut bien se dire une chose, c'est que on n'est pas dans une lutte d'influence, parce qu'il n'y a pas d'influence. Donc, pour être dans une lutte d'influence, il faut déjà commencer à influencer. Donc, on n'influence personne aujourd'hui. Donc, il faut qu'on commence à être proactif et on ne connaît pas le résultat de notre action. Donc, des fois, on peut avoir... Moi, je parle avec des gens, parfois, un exemple tout bête. Là, il y a deux jours, on a reçu une demande d'un député européen, puisque dans pleine session parlementaire, de visiter la grande synagogue. Donc, je l'ai accueilli, etc. Et je dis, mais première question, je dis, mais ça me fait très plaisir que vous veniez, mais pourquoi ? Qui vous a dit de venir ? Et il m'a dit, mais écoutez, moi, je viens de tel endroit en Espagne, de Séville, et je connais le rabbin, et j'ai visité la synagogue, et je voudrais visiter la synagogue ici. Donc, on se rend compte qu'en réalité, le contact local, il a un impact sur la dimension européenne. Parce que cette personne, demain, elle se propose, elle dit, voilà, moi, je vous ai visité, ça me fait très plaisir, est-ce qu'on peut vous aider ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous êtes sensibles et qu'on a besoin de comprendre ? Donc, voilà, moi, je suis pour cette idée-là du partage, de l'ouverture, de la proactivité. Et on est là depuis 3000 et quelques, 300 et quelques années. On sera là encore dans 3000 ans, ne vous inquiétez pas.
Merci beaucoup, Mendel Samama, d'être venu au studio nous éclairer sur votre rôle au Conseil de l'Europe et sur les luttes qui continuent pour la protection des droits. Je suis sûre que vous avez éclairé nos auditeurs.
J'espère.
Merci infiniment. Donc, nous allons finir sur une petite note musicale, « Somewhere over the rainbow ».
Dreams that